Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Initiative franco-allemande pour permettre l'accueil en Europe de mineurs non accompagnés du camp de Moria. Le plus grand camp de réfugiés de Grèce a été totalement détruit par des incendies. Marie-Pierre Verrou est sur place pour France Culture. Le Parlement européen exclut Aung San Suu Kyi de la communauté des lauréats du prix Sakharov. Décision prise pour sanctionner le silence de la dirigeante birmane face aux exactions subies par la minorité musulmane Rohingya. Explication d'Angélique Bouin. Christophe Castaner parviendra-t-il à rassembler les députés En Marche ? L'ex-ministre de l'Intérieur devient le patron des députés LREM. Il a obtenu 55% des voix au second tour face à Aurore Berger, une avance modeste alors que plusieurs députés ont encore fait défection cette semaine. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement débloque 7 milliards d'euros sur 10 ans pour développer l'hydrogène. C'est le dossier du journal proposé par Hakim Kasmi. Une enquête a été ouverte en Grèce pour déterminer les causes des incendies qui ont détruit le camp de Moria. Le gouvernement grec soupçonne des demandeurs d'asile de les avoir déclenchés pour ne plus subir les mesures d'isolement imposées à cause de l'épidémie de coronavirus. La France et l'Allemagne viennent de lancer une initiative commune pour qu'environ 400 mineurs non accompagnés puissent être accueillis par des pays européens. Mais pour les autres réfugiés du camp, aucune solution pour l'instant. Marie-Pierre Véraud, vous êtes arrivée au camp de Moria qui n'est plus en état d'accueillir qui que ce soit.
En effet, Aurélie, c'est comme un paysage de fin du monde. À perte de vue, des carcasses calcinées, des restes de conteneurs noircis, des moignons d'arbres tordus par le feu et le sol gris de cendres, l'air chargé encore de fumée. Là où des milliers de réfugiés s'entassaient dans la plus grande promiscuité, ne reste que la désolation et le silence, rompu seulement par le vrombissement incessant des hélicoptères qui viennent éteindre les derniers feux. Il n'y a plus rien qui soit debout à Moria. En face de ce qui fut le camp, un groupe de Somaliens a trouvé refuge sous quelques oliviers. Mohamed se souvient de cette terrible nuit.
C'était un feu énorme qui a pris dans chaque coin du camp. Les gens criaient, ils fuyaient leurs tentes. Ce qu'on a vu, c'est le feu de l'enfer. On ne pouvait même pas apercevoir le ciel.
Et donc même l'enfer a brûlé. Certains comme Hussein ont pu sauver leur papier d'identité, le bien le plus précieux, mais rien pour s'abriter, rien non plus à se mettre sous la dent.
Tout le monde se fiche de nous. Nous sommes ici depuis deux jours. Il n'y a rien à manger. Aucune organisation n'est là. Même la police se fiche de nous. Vous voyez, on essaie d'aller dans les ruines chercher des choses qui n'auraient pas brûlé et on essaie de cuisiner quelque chose. Parce qu'il n'y a rien, pas de nourriture, pas d'eau, rien.
Hussein a pu récupérer un vague réchaud calciné, trouver quelques paquets de riz dans un conteneur miraculeusement préservé et fait chauffer un peu d'eau. Mais voilà que deux Grecs en colère lui crient d'arrêter. Pas de cuisine, pas de réchaud. Vous voyez, on ne peut rien faire, ajoute Hussein. Je n'aurais jamais cru quand j'étais dans mon pays, en Somalie, vivre dans un tel dénuement ici, en Europe.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale de France Culture sur l'île grecque de Lesbos avec Laurent Macchietti. Emmanuel Macron appelle l'Europe à parler d'une seule voix et à se montrer ferme face à la Turquie en Méditerranée orientale. Depuis la Corse, où se tient le Med7, le sommet des pays du sud de l'Union européenne, le chef de l'État n'a pas mâché ses mots et ses critiques ont fait vivement réagir son homologue turc qui qualifie ses déclarations d'arrogantes, Bertrand Galichet.
Dans cet échange de mots peu aimables entre Paris et Ankara, il y a des formules que la Turquie pourrait entendre. Par exemple, quand Emmanuel Macron juge inacceptable l'accord entre les Turcs et le gouvernement libyen de Tripoli aux dépens de la Grèce, ou quand il dénonce les forages turcs dans la zone économique exclusive de Chypre. Mais d'autres phrases choc ne passent pas à Ankara.
Force est de constater qu'aujourd'hui la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région. Le peuple turc est un grand peuple et il mérite autre chose. Quand je te parle d'une Pax Mediterranea, elle doit aller avec la capacité à trouver un modus vivendi avec la Turquie. Mais nous devons, nous Européens, être clairs et fermes avec, non pas la Turquie comme nation ou comme peuple, mais avec le gouvernement du président Erdogan.
Des mots visiblement pris comme une attaque personnelle par le président turc, qui juge arrogantes les déclarations de son homologue français et parle d'un vieux réflexe colonialiste. Emmanuel Macron favorise les tensions et met en péril les intérêts de l'Europe, menace Recep Tayyip Erdogan. Une réaction virulente au moment où le sommet des pays du sud de l'Union européenne, réuni ici à Porticcio, examine la réaction la plus efficace pour contrer l'expansionnisme turc en Méditerranée orientale, le Med7 espère présenter un front commun solide, susceptible de freiner les ardeurs de la Turquie.
Bertrand Galiché à Porticcio en Corse. Beyrouth sous la fumée. Un énorme incendie s'est déclaré dans la capitale libanaise, déjà traumatisée par une explosion meurtrière il y a 5 semaines. Le feu a touché un entrepôt où sont stockés des bidons d'huile et des roues de voitures dans la zone franche du port de Beyrouth. Son origine n'est pas encore connue. 13 États de l'Ouest américain font actuellement face à des incendies majeurs poussés par des vents forts. Ils ont fait au moins 6 morts ces derniers jours. Les personnes évacuées se comptent par dizaines de milliers et ce sont des centaines de milliers d'hectares qui ont été ravagés par les flammes. Nous retrouvons Loïc Piella à Los Angeles.
Les habitants de San Francisco se sont réveillés dans un décor apocalyptique, un ciel complètement orange, le soleil couvert par la fumée d'un incendie brûlant à 3 heures de là. Le Bear Fire a progressé de plusieurs milliers d'hectares en quelques heures, tuant au moins 3 personnes. Dennis a survécu, mais tremble encore au moment de témoigner sur la chaîne CBS.
C'était trop tard pour partir. Le feu arrivait trop vite. Tout a brûlé autour de l'atelier où je me suis réfugié. J'ai cru que j'allais mourir à cause du feu ou de la fumée.
Évacuation à la dernière minute aussi dans l'Oregon, l'état juste au nord de la Californie, où des vents de 75 km/h ont soufflé sur les flammes. Jody raconte à une chaîne locale ce qu'elle a traversé.
Du feu des deux côtés de la route, des arbres à terre, le vent, les cendres qui volent. C'était comme conduire en enfer.
2 personnes sont mortes. Plusieurs petites villes de l'État ont déjà été réduites en cendres. Les pompiers n'ont pas encore communiqué de bilan précis, mais la gouverneure Kate Brown s'attend au pire.
L'Oregon connaît des feux sans précédent. Nous pourrions bien faire face aux pertes humaines et matérielles les plus lourdes de notre histoire.
Et dans l'État de Washington, 130 000 hectares ont brûlé dans la seule journée de lundi, plus que toute une année moyenne d'incendies dans cette région du Nord-Ouest américain.
Un an avant d'obtenir le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, alors opposante à la dictature birmane, s'était vue décerner le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Mais aujourd'hui, le Parlement européen décide de l'exclure de la communauté des lauréats. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Aung San Suu Kyi est aujourd'hui chef de facto du gouvernement birman et le Parlement européen lui reproche son silence face au sort des Rohingyas, minorité musulmane, qui subit les exactions de l'armée birmane, Angélique.
Oui, l'étoile de l'ancienne héroïne mondiale de la démocratie ne brille plus et cette annonce vient compléter en fait la longue liste de récompenses qui lui ont déjà été retirées formellement ou comme ici symboliquement. On ne compte plus également les villes ou les universités qui ont décroché son portrait et le Canada lui a retiré sa nationalité. Cette fois, ce sont donc les eurodéputés qui excluent la dame de Rangoon de la liste des lauréats du prix Sakharov des droits de l'homme, un prix remis chaque année par le Parlement européen et c'est une première. On n'a pas pu lui retirer car il lui avait été attribué pour avoir incarné à un moment précis le combat de son pays pour la démocratie et non pour l'ensemble de sa vie, a précisé un porte-parole. Mais cette décision permet donc de sanctionner son inaction et son acceptation des crimes en cours contre la communauté Rohingya, précise le communiqué. Pour les élus européens, Aung San Suu Kyi ne peut plus incarner les valeurs qui sont les fondements de ce prix. La décision a été adoptée aujourd'hui à l'unanimité des présidents des groupes parlementaires et sans débat. Âgée de 75 ans, l'ancienne icône des droits de l'homme, co-dirigeante de la Birmanie, défrait régulièrement la chronique en refusant de dénoncer les crimes de l'armée birmane. En novembre dernier, elle avait par exemple beaucoup choqué ses anciens admirateurs en venant défendre en personne devant la Cour de justice internationale de La Haye, son pays accusé de génocide contre les Rohingyas.
Angélique Boin, en direct de Bruxelles. Elle incarnait Emma Peel, l'élégante acolyte de John Steed dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Elle avait joué plus récemment dans Game of Thrones et entre les deux, elle avait fait une carrière brillante au théâtre. L'actrice britannique Diana Rigg est morte au petit matin. Elle avait 82 ans. Retour sur son parcours avec Richard Place à Londres.
Diana Rigg, c'est d'abord la partenaire de Patrick McNee dans Chapeau melon et bottes de cuir.
What do you see, Madame Peel?
I see you and I.
Fine et élégante, elle interprète une femme forte qui se bat et ne succombe pas au charme de son partenaire. Son personnage entretient une ambiguïté permanente avec le héros de la série. Elle a été Emma Peel pendant 2 saisons seulement, mais ce rôle marque les esprits. Elle joue ensuite dans un James Bond en 1968, sans doute pas le plus marquant, au service secret de Sa Majesté. Elle y épouse même 007, incarnée cette seule fois-là par George Lazenby. Diana Rigg n'a jamais apprécié d'être considérée pour son physique, et le rôle de sexe symbole ne lui convenait pas du tout. Ici, c'est au théâtre qu'elle a essentiellement fait carrière. Il y a 7 ans, elle apparaît dans une autre série à succès, Games of Thrones. Elle incarne Olenna Tyrell, surnommée la Reine des Épines, pour ses remarques cinglantes. Elle devient rapidement l'un des personnages préférés des fans.
Limiter les effets de la crise, mais aussi préparer l'avenir. C'est l'enjeu du plan de relance de 100 milliards d'euros présenté la semaine dernière par Jean Castex. Ce plan prévoit notamment 7 milliards d'ici 2030 pour le développement de la filière hydrogène. Pour le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, il s'agit d'une question de souveraineté pour la France face à la concurrence de la Chine et des États-Unis. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Pour comprendre où en est la filière hydrogène et quelles sont ses opportunités, vous vous êtes rendu chez Symbio à Fontaine, près de Grenoble, une entreprise allié au groupe Michelin qui produit des piles à combustible pour l'industrie automobile.
Et oui, c'est dans cette usine que sont développées et testées les piles à combustible avant d'être envoyées chez des constructeurs comme Renault qui produit des Kangoo Z2 tout électriques avec désormais un kit hydrogène qui pourront se greffer pour donner plus d'autonomie à ces petits utilitaires. Ce qui va leur permettre de même doubler cette autonomie qui va passer de 170 à 300 km. Le conducteur du jour, il s'appelle Alexandre Rouet. C'est notre ingénieur test chez Symbio et c'est lui qui nous explique comment va fonctionner ce véhicule.
Alors en termes de conduite, il n'y a aucune différence entre un véhicule électrique classique Kangoo Z2 et un véhicule hydrogène. Vous allez avoir l'interface d'information du système hydrogène qui vient en complément vous informer sur l'autonomie totale du véhicule et votre plein de réservoir hydrogène. Lorsque le véhicule roule, le système hydrogène va venir alimenter le moteur électrique, ce qui va ainsi préserver la batterie électrique de base. Et lorsqu'on est à l'arrêt, le système hydrogène va venir recharger directement la batterie électrique de base du véhicule.
Mais pour les constructeurs et les équipementiers comme Symbio, l'enjeu sera la massification de la production afin de réduire leurs coûts et surtout leurs prix. Car pour l'instant, il n'y a qu'une centaine de véhicules qui roulent à l'hydrogène en France, notamment chez les énergéticiens Engie. Leur prix est en effet deux fois plus cher qu'un véhicule thermique, sans compter que le nombre de stations est très insuffisant. Il n'y en a que 30 en France, comme nous l'explique Philippe Rosier, le directeur général de Symbio.
Il faudra beaucoup plus de stations hydrogène, bien sûr. Il faut aussi un système de production des piles à combustible qui soit automatisé. C'est tout un écosystème qui doit être mis en place et qui est d'ailleurs totalement décrit dans le plan hydrogène du gouvernement, c'est-à-dire la production d'hydrogène vert, la distribution dans des nouvelles stations hydrogène et derrière les véhicules disponibles. D'ailleurs, nos premiers véhicules utilitaires vont arriver sur le marché en France en 2021.
En attendant, même si la France maîtrise cette technologie de l'hydrogène, elle doit veiller à ne pas prendre de retard, comme par exemple avec les panneaux solaires ou les batteries des voitures électriques, ce qui devra passer aussi par la production intégrale de toutes les pièces en France pour maîtriser l'ensemble de la chaîne et de la production pour rester indépendant face à des pays comme la Chine et les États-Unis qui sont de sérieux concurrents, d'où l'importance du développement de la recherche dans la filière et dans le monde supérieur, comme nous l'explique Olivier Joubert, directeur de recherche au CNRS. C'est grand spécialiste de l'hydrogène en France.
Il y a la première chose à démocratiser, bien sûr. Donc ça, c'est peut-être l'enseignement et la formation qui va aider, mais aussi la recherche, parce qu'on parle beaucoup d'hydrogène depuis de très nombreuses années, notamment pour les fusées. Il y a des piles à combustible qui sont déjà impliquées dans les fusées, mais si on veut avoir des piles à combustible qui soient durables et à bas coût, il faut travailler sur les briques de base, c'est-à-dire les membranes, les catalyseurs, pour pouvoir réduire le coût et augmenter la durée de vie de ces piles à combustible.
Enfin, le défi sera également environnemental, puisque pour l'instant, 95% de l'hydrogène fabriqué en France provient d'énergies comme le gaz, une énergie fossile, Aurélie. Et donc, il faudra attendre encore un peu, notamment en développant les filières éoliennes.
Merci, Hakim Kasmi. Christophe Castaner prend la tête du groupe LREM à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de l'Intérieur remporte l'élection interne pour la présidence du groupe, avec 25 voix d'avance seulement sur la députée des Yvelines, Aurore Berger. Bonsoir, Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes à La Motte-Brébière, près d'Amiens, où se déroule la rentrée parlementaire des marcheurs. Christophe Castaner, qui succède à Gilles Legendre, arrive clairement avec l'étiquette de candidat de l'exécutif.
Et elle est assumée, cette étiquette, revendiquée même par le tout nouveau président des marcheurs à l'Assemblée.
Si la porte d'un ministère ne s'ouvre pas, je veux que vous me le disiez pour la faire ouvrir. Si une de nos lignes, une de nos convictions était malmenée, je veux pouvoir la porter et la défendre jusqu'au plus haut niveau. Vous connaissez ma proximité avec le président de la République, je n'en fais pas mystère et j'en suis fier. Ce sont des atouts.
Des atouts plus faciles à faire valoir quand on parle d'une seule voix. Et ça, au groupe LREM, ce n'est pas franchement ce qui se passe au quotidien. Alors aujourd'hui, malgré les 25 petits votes d'écart entre les deux candidats, ils n'ont tous qu'un mot à la bouche, les marcheurs.
On a besoin d'être rassemblés pour pouvoir
parler aux Français.
Maintenant, c'est l'heure de se rassembler tous autour de Christophe Castaner.
Il nous convient maintenant de nous rassembler, de travailler.
On est rassemblés et on est surtout tournés vers l'action.
Rassemblement, ça ne se décrète pas, ça se construit, tacle déjà Aurore Berger sur les réseaux sociaux. Il faut lui reconnaître qu'il peut paraître de façade aujourd'hui, ce rassemblement. Et la tâche s'annonce délicate pour Christophe Castaner, selon le député Patrick Vignal.
Le groupe n'est pas unifié. On n'a pas su se débrouiller pour faire une vraie famille. Moi, je compte sur Christophe, là, que rapidement, l'hypertrophie de l'ego de certains se calme et qu'on se mette à bosser. Ce n'est pas forcément que pour l'élection d'Emmanuel Macron, c'est pour qu'on ait un vrai groupe solide. On va chasser en meute maintenant. Et si on chasse en meute, que ce soit le Modem ou Agir, seront des partenaires et pas uniquement des concurrents pour récupérer des circonscriptions en 2022.
Parce que c'est aussi ça le sujet, surtout peut-être mettre un terme au départ nombreux du groupe, plus d'une trentaine en 3 ans, et des derniers vers le Modem, officiellement allié de la majorité.
Rosalie Lafarge avec Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Ralentir au maximum l'épidémie de coronavirus sans empêcher les Français de vivre, étudier, travailler, c'est l'équation que doit résoudre le gouvernement. De nouvelles décisions devraient être annoncées demain à l'issue d'un conseil de défense consacré au Covid-19. En plus des gestes barrières, il faut tester les personnes symptomatiques et les cas contacts. Mais à quels symptômes se fier? À défaut de consignes précises, Tara Schlegel, les cabinets des médecins se retrouvent pris d'assaut.
Les représentants des médecins généralistes sont à l'unisson. Leurs cabinets sont engorgés par des petits rhumes. À la CSMF, le président des généralistes, le docteur Luc Duquesnel, affirme dans Le Monde que les secrétaires sont débordés. La situation actuelle n'est pas tenable, dit-il. Chez MG France, autre syndicat, Jacques Battistoni, le président, a tenu à lire des courriers.
Alors, premier témoignage, hier, un médecin d'Indre-et-Loire qui nous dit « c'est partout le bazar, on expose pour des consultations pour rhume, pour des certificats de reprise d'école, etc. » Bref, les consignes sont tellement nulles que personne ne s'y retrouve. C'est infernal. Ça, c'est du ressenti d'activité d'un médecin généraliste.
Suivent 3 autres témoignages. Margot Bayard est vice-présidente d'MG France. Elle est généraliste dans le Tarn. Son collègue Jean-Louis Bensoussan, près de Toulouse.
On voit arriver dans nos cabinets des patients qu'on ne voyait plus auparavant, puisqu'ils étaient éduqués. On éduque les parents, ils ne vont pas avoir leur médecin parce qu'ils ont le nez qui coule. Là, c'est les crèches qui disent « Votre enfant a le moindre symptôme des crèches ou des écoles. Votre enfant a le nez qui coule. Votre enfant, il a toussé une fois, il a éternué une fois. Venez le récupérer immédiatement et allez voir votre médecin traitant. » Donc voilà par quoi on est embolisé finalement, des choses que nous ne voyons plus.
La surcharge d'activité aujourd'hui qui est ressentie et le sentiment d'exaspération que soulignait Jacques, c'est par rapport aux demandes de certificats administratifs. Est-ce que je peux renvoyer mon enfant? Est-ce que je ne peux pas le renvoyer? Est-ce qu'il faut faire tester toute la famille ou pas?
Comme le disent ces médecins, les recommandations tardent trop. Leur syndicat a donc saisi la haute autorité de santé pour avoir des réponses et désencombrer si possible leurs cabinets médicaux.
Tara Schlegel. Le procès des attentats de janvier 2015 a pris une tournure plus intimiste aujourd'hui. « Papa dessinait sur les nappes de restaurant quand j'étais petite », raconte la fille du dessinateur honoré. Les serveurs voulaient toujours garder les nappes. Des voix de femmes se succèdent, filles ou veuves, des membres de Charlie Hebdo tombés sous les balles des terroristes. Devant la cour d'assises spéciale de Paris, Véronique Cabu s'est exprimée ce matin, faisant revivre son mari le temps de son témoignage, Florence Turme.
Elle s'approche de la barre, silhouette menue en robe noire et veste claire, petite lunette d'écaille, regard lumineux. « Ce n'est pas moi qui devrais être là aujourd'hui, c'est lui », commence Véronique Cabu, car c'était un formidable chroniqueur judiciaire. Elle contient difficilement son émotion, elle le dit, son excuse presque, déplie un petit papier avec quelques notes pour ne rien oublier. Ce procès, filmé dans son intégralité comme le procès Barbie que Cabu avait couvert, c'est important pour elle. Plus tard, les chercheurs et les historiens découvriront comment les hommes et les femmes de Charlie étaient épris de liberté. Cabu, carte de presse 21 991, c'était un pacifiste acharné, antimilitariste, poursuit-elle. Un homme joyeux, gai, gourmand, il aimait les gâteaux, Charles Trenet, le jazz et la musique baroque. Une confidence encore, tous les soirs il se passait un morceau de Purcell et vous savez, je ne peux plus écouter de musique depuis 5 ans. Ses yeux brillent, sa voix tremble, sa vie c'était le dessin. Voilà ce qu'on a perdu, je n'entendrai plus jamais son rire. Les larmes montent mais son avocate a encore une question qu'elle pose avec douceur. Que pensez-vous de la republication des caricatures dans le journal ? Charlie est là, Charlie est vivant, répond Véronique Cabu, et je l'encouragerai toute ma vie. Je ne veux pas que les terroristes et leurs complices gagnent. D'ailleurs, ils ont perdu. Et elle répète, Charlie est là.
Merci Florence Turme. Je précise que l'on peut retrouver vos chroniques judiciaires du procès des attentats de janvier 2015 sur franceculture.fr. Le temps sera estival demain et largement ensoleillé, sauf dans le sud-est. Météo France annonce de la pluie et des orages des Alpes à la Corse. Les températures iront de 8 à 15 degrés demain matin sur la moitié nord, de 13 à 21 au sud. L'après-midi, 19 à 29 de la Manche au sud-est, entre 28 et 31 sur le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Brune.